Déjà, le terme populisme en soi est un peu malheureux d'une certaine façon parce que il se réfère à des mouvements qui naissent un peu de l'idée que le vrai clivage dans nos sociétés n'est pas la droite, la gauche, des intérêts ou des valeurs différentes, mais c'est entre une sorte d'élite prédatrice, droite et gauche confondues, la classe politique toute confondue, et le peuple qui aurait été trahi par ces élites et dont ces mouvements revendiquent la représentation. En termes de monopole, c'est-à-dire ce sont eux et eux seuls qui revendiquent et qui peuvent de façon légitime prétendre à représenter le peuple. Alors le problème du terme populisme, c'est que d'une certaine façon, on leur donne raison.
Benjamin,
D'un côté populiste,
d'un côté
ma théorie.
populiste.
Moi, j'ai appelé ça, c'est une forme de populisme de gouvernement. C'est-à-dire, vous devez partir du contexte italien qui est, j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de le dire ici, une sorte de Silicon Valley du populisme. C'est-à-dire, c'est vraiment un laboratoire populiste depuis très longtemps où les élites politiques ont été balayées au début des années 90. C'est toute une série de formules alternatives ont été cherchées. Cette énergie populiste, ce ras-le-bol face aux élites, à l'establishment politique en Italie, il est très fort depuis très longtemps. Et Renzi a été une tentative de capter cette énergie avec des éléments populistes, donc lui-même en disant, il se présentait comme celui qui allait mettre à la casse la vieille
les
classe
vieux clivages,
politique.
comme un certain
Il y avait
Emmanuel
une
Macron,
question,
alors.
exactement, mais
Ouais.
Macron
On
lui
peut être
aussi.
populiste d'extrême centre.
Ah, tout à fait. On peut essayer de l'être. Après, ça ne se passe pas toujours bien. Dans le cas de Renzi, justement, il a essayé, il a réussi pendant une phase à capter cette énergie-là pour essayer de la mettre au service, au fond d'un programme de centre. Ça a marché pendant un moment et puis ça n'a plus marché. Ce n'est pas si facile, c'est un exercice assez périlleux. C'est une forme politique qui se nourrit un peu de la déchéance des vieilles frontières entre la droite et la gauche. C'est une forme politique qui se nourrit de l'absence. Oui, il y a un philosophe allemand qui s'appelle Peter Sloterdijk qui parlait de banque de la colère. Et lui, il disait, il y a eu dans l'histoire politique toujours des partis, des mouvements qui interceptaient la colère de ceux qui étaient mécontents par rapport au système. Et ça a été par exemple longtemps les partis de la gauche au cours du XXe siècle dans la majorité des pays européens. À un certain moment, ce ne s'est plus vraiment passé comme ça, parce que les partis de la gauche se sont plutôt alignés au système de marché, parce qu'ils ont adhéré plus ou moins au statu quo, à ce qui existe. Et donc là, du coup, il y a
Un
de
glissement.
nouveaux mouvements qui ont émergé, qui ont soulevé de nouveaux thèmes, là aussi, des thèmes dont on parlait peu, des thèmes qui étaient un peu mis sous le tapis et qui exploitent
Lesquels?
ces colères.
Lesquels?
Cette colère.
Des thèmes liés à la guerre culturelle, des thèmes identitaires,
Par
des thèmes liés à
exemple,
l'angoisse économique, l'angoisse du déclassement.
Exactement, des thèmes même
Ceux de
liés
partout et
à
ceux de quelque part,
l'immigration, à
l'immigration.
l'identité, aux racines, à la sécurité, etc. Toute une série de thèmes qui étaient sous-exploités politiquement.
Pas de populisme sans guerre culturelle, c'est ça que vous dites, d'une
Bah
certaine façon.
oui, il y a d'une certaine façon. Ça fait partie de la panoplie.
Ça fait
Il y a
partie de la
plusieurs
panoplie.
éléments. C'est extraordinaire parce que c'est tout à fait paradoxal. Le Brexit s'est joué, justement, comme vous le rappeliez, sur la base du slogan « On reprend le contrôle de
C'est
notre
ça.
destin » et tout ça. Et aujourd'hui, après toute une série de péripéties politiques assez incroyables, les Britanniques se retrouvent, au fond, avec un technocrate à la guide, qui guide le gouvernement. Et une expérience qu'il n'avait d'ailleurs jamais faite, parce que c'était plutôt des politiques d'une forme ou d'une autre. Alors, Rishi Sunak, c'est un homme politique aussi,
Le
mais
nouveau
c'est
Premier
quand même
ministre,
quelqu'un
oui.
qui a un profil de technocrate, une expérience de banquier. C'est quelque chose qui ressemble presque au Mario Draghi, aux expériences de technocrate que nous avons faites en Italie. Et donc, je trouve que c'est assez frappant, parce que c'est la démonstration grandeur nature. Que oui, en sortant de l'Europe, évidemment, le monde ne s'effondre pas, le pays ne va pas complètement dans le mur, etc. Mais au lieu d'augmenter la marge d'autonomie et de manœuvre, on la diminue.
Yanoda Empoli, l'Europe a été en état de choc quand le parti de Giorgia Meloni a été élu, a remporté la victoire. Fratelli d'Italia, est-ce que Meloni et Mussolini sont les squadristi, les chemises noires, ou c'est plus compliqué que ça?
Je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, il est vrai qu'elle a grandi, c'est la première fois pour un chef de gouvernement italien. Elle a véritablement, de l'après-guerre, elle a grandi dans une culture post-fasciste, très clairement. Ses références culturelles, politiques sont là. Et nombre de ses alliés, y compris des gens qui aujourd'hui siègent à la tête des institutions italiennes, notamment le nouveau président du Sénat, sont des gens qui font ouvertement référence à l'héritage de Mussolini. Donc ça, c'est indéniable. Après, malgré cela, je ne pense pas que ce soit l'explication profonde de son succès. Je pense que Giorgia Meloni a gagné les élections plus sur la base d'une dynamique, d'ailleurs, que nous évoquions avant. C'est quelque chose qui vient d'assez loin en Italie, mais pas d'il y a 100 ans, plutôt d'il y a 30 ans. Ça commence avec la déconstruction de notre système politique au début des années 90, avec cette poussée, cette recherche d'alternatives, d'outsiders politiques, d'une forme de dégagisme politique qui se croise aujourd'hui effectivement avec une idéologie illibérale, disons d'extrême droite. Mais je pense que c'est malgré tout plutôt la première poussée qui est plus importante que la seconde. C'est-à-dire que Meloni, c'était la seule opposante au gouvernement Draghi. La seule alternative aujourd'hui encore possible et non testée par rapport à toutes les expérimentations absurdes qui ont eu
lieu.
Alors,
expérimentation en Italie.
Chaque réalité est différente, mais il est vrai que nous avons eu, après cette vague populiste, nous l'avons eu déjà à la fin des années 2010. Elle était d'ailleurs aux élections au Parlement européen. On a eu quand même peur à un moment. Après, la Covid a eu un effet de, comme ça, ça a calmé le jeu. D'ailleurs, les sujets qui portent les partis populistes sont passés à l'arrière-plan. Ils ont très mal interprété cette phase-là parce que leur instinct anti-establishment, etc., il s'est retourné contre les scientifiques, les médecins, les vaccins, etc. Ouais, la majorité de l'opinion publique, même s'ils ont eu des sympathisants et tout ça, la majorité des opinions publiques ne les a pas suivis. Donc ça a été une pause. Aujourd'hui, on revient effectivement à une nouvelle vague, disons, nationale populiste qui, par contre, a un peu changé parce que Meloni aujourd'hui n'est pas Salvini de 2018. Elle a intégré certaines contraintes, c'est ce qui la rend d'ailleurs plus dangereuse d'un certain point de vue. Elle a intégré ces contraintes-là au niveau international. Elle ne veut plus sortir de l'euro, elle ne veut plus sortir de l'Europe. Elle est plutôt du côté OTAN, anti-Poutine et tout ça.
C'est une sorte de techno-souverainisme.
Exactement. Mais c'était la définition de Gilles Grissani qui est très bonne. D'abord, il y a vraiment des principes fondamentaux de la démocratie américaine et de la démocratie brésilienne aujourd'hui qui sont remis en cause, notamment la passation de pouvoir pacifique à la suite d'élections. C'est plus grave que chez nous. On n'a pas encore d'exemple européen de ça. Espérons de ne pas en vivre. Ça se fait de justesse, comme vous l'avez dit. Encore au-delà de ça, et je m'interromps tout de suite, la vérité, c'est que nous n'avons pas trouvé d'antidote par rapport à ça. C'est-à-dire, vous aviez de vieux monsieur, donc Biden, Lula, qui viennent par essoufflement de leur challenger, enfin de leur des présidents nationaux populistes. Ils arrivent, ils n'ont pas véritablement de nouveaux souffles, de nouvelles formules. Il n'y a pas d'antidote pour l'instant par rapport à la proposition de gens comme Trump ou Bolsonaro, sauf eux-mêmes qui se font du mal tout seuls.
C'est corrélé, mais ça ne crée pas. C'est-à-dire que les réseaux sociaux n'ont pas créé la défiance démocratique, la défiance dans les institutions, le malaise, la fatigue. En revanche, ça a amplifié. Et il y a cette expression, alors, que Jean-Yves Le Drian avait reprise, mais que j'aime beaucoup et que je reprends toujours.
Ancien ministre des Affaires étrangères.
Ancien ministre des Affaires étrangères, qui expliquait justement, alors, dans le champ vraiment de la guerre informationnelle au sens vraiment large, dire, est-ce que ce changement, finalement, d'échelle signifie un changement de nature dans ce qui est en train de se jouer actuellement ? Et possiblement que, en effet, par l'amplitude, le volume et surtout la vitesse. La vitesse. Parce qu'on parle toujours du volume des contenus, on ne parle jamais de la vitesse. Or, la vitesse, c'est le pouvoir. Mmh. Et ce qui est extraordinaire dans la question des populismes, et plus exactement, pas tant des populismes, mais des conspirationnismes, c'est que, et c'est ça qui est en train de se jouer, notamment aux États-Unis, mais pas que.
Vous pensez
à
QAnon, notamment ?
Évidemment. QAnon, qui est aujourd'hui...
Ce mouvement
qui est en train de se structurer comme parti politique, qui présente aujourd'hui des candidats.
Alors, il faut rappeler ce que...
Politique. Aujourd'hui, il y a Marjorie Greene aux États-Unis qui est au Congrès et qui a été réélue et qui pousse toutes ces thèses conspirationnistes, anti-système, sur le vol des élections de Trump, etc. Donc, elle a mis un peu d'eau dans son vin parce qu'aujourd'hui, elle a besoin d'avoir l'allégeance ou en tout cas l'adhésion d'une partie de ses collègues républicains. Mais ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est qu'aux États-Unis, il y a aujourd'hui au sein du camp républicain cette fracture entre l'alt-right, donc vraiment cette espèce de magma d'extrême droite républicain, et puis les républicains plus
classiques. Tous les candidats de QAnon ont été battus quand même, il faut le dire, aux dernières élections.
Hors Marjorie Greene, oui, à peu près tous, mais et c'est ça qui est intéressant quand on fait un tout petit peu de, quand on regarde un peu les choses sur le temps long, vous avez raison de le souligner, c'est ce qui est en train de se préparer. Ce qui est en train de se préparer est très très intéressant et inquiétant parce que vu par le prisme des réseaux sociaux, et c'était la question, vous avez absolument, c'était la question de se dire, bah, les QAnon aujourd'hui, ils s'organisent et c'est ce que permet les réseaux sociaux, c'est ça que ça permet, de s'organiser en communauté, de créer du lien affinitaire et potentiellement d'organiser des actions, ça c'est d'une part, et d'autre part, vous avez aussi, et c'est lié, il se trouve, toutes les ingérences informationnelles russes, chinoises, qui injectent des narratifs, d'autres éléments de narration, et qui sont récupérés par les QAnon, et qui deviennent organiques. Et de ce point de vue-là, et c'est ce que disait Giuliano tout à l'heure, je crois, quand ça devient organique et anti-système, on a un problème, et donc la démocratie est prise en étau entre les ingérences extérieures, le conspirationnisme, une espèce d'international conspirationniste de l'intérieur, et là on a un problème.
Ne pourrait pas...
Le carnaval, ça va même au-delà de là, c'est-à-dire le carnaval, c'est une subversion des valeurs.
Hein,
le faux devient le bien, le faux devient le vrai, vice-versa, le haut devient le bas, etc. Et donc ça, c'est possible, ce n'est possible que dans un climat d'échéance extrême où personne ne croit plus aux valeurs dominantes et on a besoin de les remplacer par leur contraire.
Est-ce que l'Europe doit réguler ?
Évidemment qu'il faut réguler. Il faut, je pense, échapper à ce piège qui consiste à dire on ne peut pas réguler, on n'y comprend rien, de toute façon c'est trop rapide pour nous, on va tuer la bête, ça marche, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement des médias traditionnels. Évidemment que c'est différent et donc il faut être très fin dans la régulation et la première exigence c'est celle de commencer à comprendre comment ça marche et donc une exigence de transparence. Mais à